Le chemin des mots. Arrête-toi. Attends. Écoute. Souviens-toi. Le mot chiffonné sur du papier glacé. Le verbe poétique caché dans la phrase. Donne vie aux images. Grave son nom sur un tronc d'arbre. Écris le tumulte des eaux. Imagine les elfes s'abritant sur un rayon de lune. Embrasse le texte dans son renouveau. Relis-le, chante-le, offre-le, une nouvelle en voyage sur le chemin des mots.
En 1985, Christo, artiste plasticien, et Jeanne-Claude, sa compagne, emballent le Pont Neuf à Paris. Une œuvre éphémère, un important fait médiatique. Une performance renouvelée quelques années plus tard avec l'Arc de Triomphe. Dans cette émission, les nouvelles vont être construites autour de la notion d'emballage. Bach, Bob Marley sont sollicités en guise d'interludes musicaux.
Les emballages. C'est bientôt Noël, la fête pour ceux que l'on aime, la tendresse, le bonheur, mais le casse-tête annuel, les surprises heureuses, mais quelquefois décevantes, les imprimés de toutes les couleurs, les bolducs choisir pour parachever la surprise des cadeaux, les doigtés heureux, les loupés désastreux, jamais oubliés. Dans certaines familles, on peut quelquefois décider, cette année, pas de cadeaux, sauf les enfants. On avait dit, c'est trop triste, les enfants ne comprendraient pas. Alors, l'année d'après, certains font marche arrière. On entend d'abord les petites réflexions glisser en douceur. Et si on reprenait les cadeaux? Les enfants, l'an dernier, n'ont pas compris. Ils ont été déçus. Et les grandes personnes, mine de rien, en rajoutent. Les enfants n'ont pas compris, vraiment. Le Père Noël, pour eux, et pas pour les grandes personnes, qu'est-ce qu'il lui a pris? Les papis, les mamies, sont pourtant gentils. Comment leur paraître logique? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? On ne peut recommencer cela. Et c'est reparti. L'inévitable casse-tête. Quelle heure est-il? 14 heures? Il faut que je sorte. J'avais choisi aujourd'hui. J'ai quelques courses à faire. Quel casse-tête! J'ai pas trop d'idées. Mais les enfants, elles seraient trop déçues. Éléonore, l'an dernier, nous a fait croire que le Père Noël était en train de faire ses achats. Elle a joué le jeu pour sa petite sœur. Éléonore a fait durer le plaisir. Elle est rentrée dans l'histoire heureuse d'un mensonge enfantin. Elle est bien capable de faire durer la chose. Doit-on culpabiliser d'entrer dans ce mensonge des grandes personnes autorisées? Allez, cette année encore, on va faire durer la chose.
Depuis tout petit, j'ai toujours préféré les emballages aux cadeaux. Fascinée par leurs couleurs, leurs brillants et le bruit craquant lorsque je les froissais dans mes petites mains, comme s'ils me criaient leur envie de vivre. Et puis je les voyais à regret être jetés dans un grand sac poubelle avant de partir à la décharge. Déjà en ce temps-là, mon attention était attirée par une multitude de détails, comme les rubans, les ficelles, le scotch transparent ou trouble, les bandelettes autour d'un membre blessé. Aussi, tout ce qui servait à attacher. L'épingle à cheveux de ma maîtresse d'école, l'élastique qui retient les cheveux des filles. Bref, tout ce qui nous, tout ce qui contient la liberté de mouvement, tout ce qui abrite un objet et pourquoi pas un être vivant. Alors un peu plus tard, j'ai aimé observer les mouches, les fourmis, les abeilles se débattre dans de minuscules boîtes. Je faisais tout de même des trous pour que mes petites bêtes respirent. Je ne suis pas chien. J'aime la pénombre des lieux clos, peu éclairés, les silences, les battements de mon cœur, amplifiés par un stéthoscope, la vie fragile. Je ne supporte pas les cris, les lumières vives, les gens et les règlements. Je subissais, les yeux rivés au sol, les colibés de mes camarades de classe, car j'avais, comme on dit, un œil qui disait zut à l'autre, ce qui me donnait un regard louche. Et puis arriva Huguette. Huguette, je l'ai aimée au premier regard, avec son nez de travers et ses yeux violets, une disharmonie de l'ensemble qui me plaisait. Je reste fascinée par sa bouche bien dessinée, voluptueuse, mais qui s'est amincie au fil des ans pour ne former qu'un trait crispé par les frustrations. Bonheur éphémère. Sûr, je ne l'emballe plus, mais certes, c'est réciproque. Dans mes bottes de 7 lieues, je rêve de grands espaces, je fais des pas de géant, tandis qu'Huguette me ramène chaque jour à un quotidien empli de petites mesquineries. Je supporte à peine sa hargne perpétuelle dès que j'apparais dans sa ligne de mire. Mon allure traînante, mon manque de conversation, mon inattention à ses changements de coiffure, et j'en passe. Alors, j'occupe beaucoup de temps dans mon atelier à concevoir de nouveaux designs d'emballages biodégradables, car c'est à la mode. Par contraste, je rêve d'un emballage qui dure, un emballage qui ne se dégrade pas, un corps qui ne se détruit pas. Au final, je me mets à rêver d'embaumer Huguette et de la momifier pour ne plus l'entendre. Je l'imagine les yeux fermés, la bouche cousue et son corps merveilleux enveloppé de bandelettes pour l'éternité. L'œuvre de ma vie, en somme. L'idée m'en est venue en regardant un reportage sur les momies égyptiennes. Quelle distinction, quelle classe dans la mort. J'y pense jour et nuit, surtout la nuit, en regardant Huguette dormir. Je prends l'habitude de consulter des tutoriels sur mon ordinateur qui détaillent les étapes de l'embaumement. Siphonner le sang, puis infuser dans le corps une substance chimique à base de formol. Je m'équipe subrepticement. Bientôt, je suis enfin prêt pour la tâche sublime de croque la mort. Un soir, j'ai endormi Huguette pour toujours. Elle n'a rien senti. J'en suis heureux. Mon projet prend forme, ou plus précisément, la forme de ma bien-aimée en mode silencieux. Enfin, je procède à un bandelettage minutieux avec des mètres et des mètres de bandelettes de lin que l'on dit très isolantes. J'emmaillote mon Huguette avec amour, pendant des jours et des jours. Seul son visage apparaît. Je l'ai longuement lavé avec de l'huile de palme et puis enduit de résine et maquillé avec plusieurs couches de brun. Un beau masque. À présent, dans notre chambre, repose une momie de toute beauté. Quel emballage exquis.
Du journal au récit autobiographique, en passant par le roman familial, l'introspection peut remplir une vie d'écriture. Le quotidien et la mémoire sont la matière de ces confidences sur papier.
Dans la boutique du marbrier funéraire, j'ai très longtemps hésité. Une couronne ou une plaque? Ou peut-être même une simple composition de fleurs artificielles? C'est moins joli, mais ça dure plus longtemps. Je n'arrivais pas à me décider. Des fleurs, c'était bien pour la circonstance, et ma sœur avait toujours aimé les bleuets, les iris et les camélias. Par contre, Elle risquait de souffrir du transport sans être arrosée. Ce serait encombrant dans la voiture, et probablement que le coffre était trop petit. Je ne me voyais pas faire tout ce long voyage jusqu'à Épinal, dans ma ridicule petite Fiat Punto, une couronne funéraire en évidence sur la banquette arrière. D'ailleurs, je ne me voyais pas faire le voyage du tout. Je n'aimais pas ma sœur. Alors traverser la France d'ouest en est, uniquement pour être là, l'idée même me dérangeait, pour ne pas dire me harcelait de vieilles rancœurs longtemps ruminées. J'ai appelé mon frère qui partageait un peu mes sentiments, mais qui lui, contrairement à moi, n'ayant pas renié son éducation judéo-chrétienne, estimait que je n'avais pas le droit de me dérober. J'étais invité, 50 ans tout de même. Je me foutais du record, bien évidemment. Mon frère avait insisté. Je devais y aller. Du bout des lèvres, j'ai promis de faire un effort. Il n'empêche que je n'avais plus revu ma sœur depuis presque 10 ans et que l'invitation m'avait surprise. Ma sœur, c'est pas un cadeau. Elle nous avait spoliés, ou du moins avait tenté de le faire lors du décès de nos parents, nous réclamant une participation aux frais de leur enterrement, alors que l'assurance de mon père avait déjà financé le tout. Il y avait cette disparition soudaine des meilleurs crus de Bourgogne et de Bordeaux dans la cave de mon paternel, vandalisée sans effraction. Pas de preuves, évidemment. Mais les soupçons s'accumulaient. L'argenterie, pareil. Ma sœur avait répondu que ce n'était pas grave qu'elle ait disparu, puisqu'en fait, il ne s'agissait que de métal argenté, pas de véritable argenterie. Elle avait pris un air offusqué quand je lui ai rétorqué « Et mon cul sur tes lèvres roses ?» Quelques bibelots aussi avaient perdu leur place dans l'appartement. Et puis le comble. Cela, je m'en rappellerai toujours. À Noël, les parents nous avaient offert un saumon fumé entier emballé sous vide. Ma sœur m'avait proposé de le conserver jusqu'au lendemain dans son frigo. Nous passerions le prendre en venant déjeuner chez elle avant notre voyage de retour. Eh bien, devinez quoi ? Elle nous a servi notre saumon comme déjeuner. C'est-à-dire que nous en avons mangé 2 parts, et elle, son mari et ses 3 enfants ont bouffé le reste. J'ai ruminé ça pendant longtemps. Et maintenant, chez le marbrier, j'y repense encore. Je comprends d'autant moins cette invitation à laquelle je n'ai pas, mais alors pas du tout envie de me rendre. Mais si je risquais d'être le seul absent, cela n'arrangerait pas les choses, évidemment. Alors je ferai contre mauvaise fortune bon cœur. Une fois de plus, je serai la bonne poire. Je serai présent, officiellement présent, physiquement présent. Mais ne vous attendez pas à des démonstrations de fraternité et de reconnaissance. Finalement, après hésitation, je me demandais si une simple et modeste plaque de marbre noir, qui pourrait être disposée n'importe où, ne ferait pas mieux l'affaire. Plus lourd, mais nettement moins encombrant. Plus simple à tous égards. Le marbrier m'en a présenté plusieurs modèles. J'ai opté pour quelque chose de très simple, d'assez sobre, mais non sans élégance. Un rectangle en marbre noir à peine veiné de gris sombre, avec une petite tête d'ange en laiton enchâssée dans l'angle en haut à gauche. Et j'ai demandé qu'on inscrive ces simples mots. À ma sœur. Là où le marbrier a été totalement déconcerté au point de me regarder d'un air stupéfait et de me faire répéter 2 fois, c'est quand je lui ai demandé de me l'emballer. C'est pour l'anniversaire de ma sœur. Vous pourriez me faire un paquet cadeau avec un beau papier et un ruban rose avec un joli nœud.
Il arrive que les événements qui lui sont contemporains s'imposent à l'écrivain, lui dictent ses thèmes, la matière de son écriture, servent d'ossature à son récit, alimentant réflexion et questionnement.
Je ne pensais pas que le fil de ma vie se déroulerait ainsi. J'avais toujours été attirée par les artistes, pourtant, j'avais 22 ans et je me retrouvais engoncée dans une chambre froide, les cheveux emballés dans une charlotte, les mains empaquetées dans des grosses moufles, à ficeler des rôtis et à mettre sous vide des barquettes de jaune, viande rougeoyante et odorante pour le compte du géant Casino. Il faut dire qu'attachée à ma liberté, j'avais claqué la porte du nid familial. J'avais dû trouver un job pour financer mes études aux Beaux-Arts où j'avais eu la chance d'être admise. Ce travail était éphémère. J'allais d'ailleurs dans une certaine mesure m'en inspirer. Au deuxième trimestre, M. Gendron nous présenta les œuvres démesurées de Christot. Celui-ci préparait en septembre un projet fou à Paris. Ces emballages monumentaux me fascinèrent et me donnèrent l'idée de préparer une performance à mon échelle pour mon examen de fin d'année. Un mélange audacieux et artistique, emballage et bandage. Je dénichais un vieux théâtre désaffecté, je tissais sans relâche une toile immense en coton blanc, et des draps que je déchirais. J'enveloppais toute la salle et la transformais en une sorte d'antre utérine. C'était la première étape. La deuxième consisterait à emmailloter un corps au centre de l'installation, ouaté, un corps peint rouge sang, sang de la carne, rouge de la vie. Je désirais montrer que la liberté et la création naissent de la contrainte. C'est durant cette période que je fis ta connaissance, mon ange. Florent, je te découvris en regardant un documentaire sur les jeunes danseurs de l'Opéra de Paris. Tu étais parmi les plus talentueux. Je tombais éperdument amoureuse. Florent, sublime, ton visage me chavira. Tes boucles mordorées et solaires collées à la sueur de ton visage contrastaient avec ton regard si sombre, si intense. Ta grâce me percuta. J'avais trouvé mon modèle, cela ne faisait aucun doute. Je cherchais à te rencontrer à tout prix. Fiévreuse, portée par une joie fébrile, j'échafaudais des plans de midinette. Je réussis à te contacter. Au téléphone, tu m'avais dit être emballée par mon projet et avoir hâte de me rencontrer. Nous avions rendez-vous au café des Deux Magots, quelle joie! Tu te prêterais à mon projet artistique, j'en étais sûre. Tu étais rouée à une discipline telle que nos séances te paraîtraient légères malgré les entraves. Ton corps souple se prêterait aux torsions, tu te laisserais envelopper. Je tisserais et j'envelopperais tes bras, tes jambes. Chaque mouvement serait une caresse. Nous travaillerions avec application. Parfois, nos fous rires éclabousseraient le théâtre lors de situations plus grotesques qu'esthétiques. Il faudrait te préserver, ne pas serrer le cou, ne pas engourdir un membre. Toujours rechercher l'esthétique. Se draper serré révélerait le moindre grain de ta peau captive, le moindre muscle. La veine qui palpite. Puis, lentement, tu te libérerais de ta chrysalide pour renaître flamboyant et sublime, te débarrasser de tes lianes et évoluer gracile. Aucun doute, cette performance créerait l'événement et serait saluée de tous. Notre rendez-vous devait avoir lieu le lundi suivant. Or, un autre destin allait se nouer. Tu fis une mauvaise chute qui mit fin brutalement à ta carrière la veille de devenir danseur étoile. Le diagnostic ne te laissait aucune illusion. Le samedi qui suivit, c'est livide, la jambe enserrée dans un plâtre, que tu assistas à la première de Gisèle pour laquelle tu t'étais tant préparé. Prétextant la fatigue et malgré les sollicitations des danseurs, tu ne les accompagnas pas. Tu allas sur le pont neuf par cette belle nuit printanière dont la douceur aurait pu te dissuader. Tu parvins, malgré tes douleurs, à escalader le parapet rugueux. Tu mis fin à tes jours en te jetant dans les flots lugubres de la Seine, sans attendre l'aube rose. Nous devions nous voir le lendemain, aurais-je pu t'en empêcher ? Florent, je n'avais pas eu le temps de te rencontrer. Mon projet artistique ne serait qu'un fantasme, la belle affaire. Des mois durant, j'errais, anéanti sur le pont neuf, cherchant un signe. Un chagrin d'une noirceur morbide m'étouffait, m'écrasait, me laissait pantelante sur le carreau. J'étais tombée amoureuse d'un songe, puisque tu n'existais plus, d'un fantôme, d'un ange, je ne savais plus. Tout s'embrouillait. Je perdais pied. Un linceul serrait ma poitrine, en serrait mon cœur. Sur le pont neuf, nous ne serons jamais amants, mon ange. Sur le pont neuf, nous ne danserons jamais enlacés, valsant frénétiquement ivres et pieds nus sous les feux d'artifice. La réalité dit que je suis vivante et que tu es mort, et qu'il y a un fleuve entre nous. À la fin de l'automne, quand Christo enveloppa d'un soir le pont neuf, j'allais avoir 23 ans, toi tu en aurais eu 26. Je sus que je pouvais te dire adieu. 4 décennies plus tard, durant l'été 2026, l'artiste JR transformera le pont neuf en grotte en hommage à Christo. Blême, j'assisterai à l'inauguration, mêlant mes larmes à la douleur vivace des souvenirs.
Ok, ça y est, j'ai trouvé l'idée de ma prochaine nouvelle où je dois m'inspirer de près ou de loin de la création de Christo qui décida avec sa femme Jeanne-Claude d'emballer le Pont Neuf à Paris à l'automne 1985. Je vais essayer, à mon échelle, de faire de même, mais chez moi, dans ma chambre à coucher. Oui, je vais envelopper mon lit et la commode toute proche. Bon, je n'ai pas encore décidé avec quoi je vais l'emballer. Ça viendra en son temps, je pense, mais pour l'instant, le plus urgent est de convaincre celle qui partage mon lit depuis quelques années, c'est-à-dire ma femme. Comment le lui dire sans avoir la plus grande manifestation féministe de tous les temps dans mon appartement, sans que Trump, Poutine et Xi Jinping ne s'en mêlent, et le plus important, que ma vie ne soit pas en danger. Comment opérer? Je parle là d'une véritable intervention, d'une précision chirurgicale. Quelle approche privilégiée? Faire l'artiste, lui signifier que cet emballage est l'œuvre de ma vie, que je ne peux réprimer ce désir, qu'il s'agit d'une véritable pulsion créatrice. La version plus pragmatique, lui assurer que je n'emballerai pas son armoire, sa table de chevet, la télé, c'est déjà pas mal. Ou encore, insister sur le besoin de changement dont elle est friande, que ce sera joli mais éphémère, quelques mois, tout au plus. Il me vient l'idée, pourquoi ne pas utiliser un carton géant et solide où chacun pourrait exprimer une pensée, dessiner, bref, une zone d'expression libre. Tiens, voilà la copropriétaire du lit qui rentre. Je vais tenter de lui expliquer ma pensée. Je lui résume la situation, le pourquoi du comment. L'emballage, la préservation de ses objets personnels, le carton, l'expression libre. Elle me semble intéressée. Pas de réaction visible pour l'instant, mais à l'écoute. Après un silence plein de promesses, elle me lance « Et où on va dormir pendant ces quelques mois, à raison d'environ 100 euros par nuit à l'hôtel, voire plus ?» J'ai fait un peu d'économie, ce sera juste, mais bon. Au fait, tu as trouvé le carton en question ? Non, pas encore, parce que j'ai déjà quelque chose à y écrire. Intérieurement, je bondis de joie, et sans laisser paraître, je me félicite de mon talent de négociateur. Super. Et qu'est-ce que tu veux écrire? Instant de suspense. Tu es bête ou tu le fais exprès? Comment? Je vais écrire sur ton carton. Mon mari est-il bête ou il le fait exprès? Ouh. Aïe, c'est pas bon ça. Maintenant, ses yeux sont des lance-flammes. La guerre du Vietnam est revisitée. Give peace a chance. Inutile d'insister, la partie est foutue. J'ai appris avec les ans à ne pas abuser de sa patience toute relative. Vais-je rester un artiste incompris ? Non. Car déjà germe dans mon cerveau fertile un nouveau projet, encore plus emballant.
D'autres couleurs, odeurs, existences. Pour certains auteurs, le changement de décor est la condition de l'écriture. Le dépaysement agit comme un carburant et une dynamique pour la narration. Vous avez entendu des nouvelles de Yvette Caudal, Bernard Sieller, Elisabeth de Villedon, Muriel Becquet et Philippe Couatte, lues par leurs auteurs.
Cette émission, Le chemin des mots, a été réalisée par Philippe Couatte, Michel Frappard, Yves Hamon, Bernard Zieler. Ils vous embrassent. Les textes rédigés ces derniers mois l'ont été dans les ateliers animés par Sylvie Boget. L'émission est diffusée le premier et le troisième mercredi de chaque mois à 17h30 sur Jet FM 91.2. Merci de votre écoute et bise à partager sur le chemin avec vous.